Et pour bien commencer la semaine, Franck Ferrand a choisi le chant des cigales et le soleil de Provence. Il nous emmène à Grasse aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Grasse, la cité des parfums. Grasse, la patrie de Fragonard. Jean-Honoré Fragonard est le plus gracieux de tous nos grands maîtres. C'est l'auteur coquin du Verrou et de l'escarpolette. Vous savez pousser l'escarpolette.
Alors avant de vous suivre au cœur de l'histoire, Franck, vous souhaitiez saluer toutes celles et tous ceux qui nous écoutent chaque jour grâce au podcast.
Oui, à l'heure qu'ils veulent, dans le lieu qu'ils choisissent et sans interruption. Bref, vive la nouvelle façon d'écouter la radio.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Son seul nom évoque les grâces, les finesses, les raffinements du siècle des Lumières, qui fut aussi et d'abord celui des pastorales pleines de petites bergères à la gorge pigeonnante, siècle des ruines aimables au détour d'un bosquet ombragé avec un cupidon de marbre pas trop dur quand même, taillant son arc dans la massue d'Hercule. Fragonard. Fragonard, avez-vous à l'esprit ces jolies laitières potelées aux cotillons retroussés, ces petits pas très frontés, les joues toutes roses et le chapeau de paille qui tombe, l'étoffe qui se dérobe et la chaise qui bascule dans un clair-obscur propice à toutes les friponneries? C'est cela, Fragonard, la patte enlevée, fleurie, presque gazeuse, volontiers impudique, la scène légère et même leste servie par une fraîcheur de ton, par une douceur de la touche incomparable, toute la frivolité de l'ancienne France dans ce qu'elle a pu présenter tout à la fois de frais et de polisson. Fragonard, il y a tant de naturel chez lui, ses toiles paraissent à ce point le fruit d'une inspiration spontanée, exécutée dans l'instant et comme sans réflexion, qu'on le penserait libre d'attachement et de référence. Et lorsqu'on apprend qu'il a fait ses armes chez Chardin d'abord, puis chez Boucher, autant dire deux des plus grands maîtres de son temps, on ne peut s'empêcher d'être vaguement déçu. Évidemment, la technique et le savoir-faire ne sont pas ennemis du génie, bien au contraire, dans le cas présent, ils ont même partie liée avec lui. Mais qui sait encore aujourd'hui de qui ce peintre admirable fut l'élève? Qui se rappelle qu'il a été le favori des favorites et a su traverser quatre régimes et même qu'il finira conservateur du Louvre? Qui? Mais Sophie Chauveau, par exemple, qui dans un roman tout en nuances, L'invention du bonheur, nous fait vibrer aux émois de Jean-Honoré. Elle sera tout à l'heure mon invitée. Auparavant, j'aimerais que nous fassions déjà connaissance avec le personnage. C'est pourquoi j'ai convié à nous rejoindre une historienne de l'art pour qui Fragonard n'a aucun secret. Bonjour Claudine Lebrun-Jouffe, merci d'être venue. Nous allons avec vous essayer de lever le voile sur un certain nombre des aspects essentiels de la personnalité du grand peintre. Alors il est né, ce Fragonard, dans une des plus jolies villes de la Provence, à Grasse, dans l'arrière-pays cannois. Alors certes, il n'y a passé que les 6 premières années de sa vie, après quoi il se méfiera sans cesse de Grasse et des Grassois, mais ce Parisien d'adoption y reviendra tout de même, notamment aux heures sombres de la Révolution, et puis il épousera une Grassoise, Marianne Gérard, qui elle-même était peintre en miniature et belle-sœur de la peintre Marguerite Gérard. Voilà pourquoi je tenais à commencer cette émission par une évocation de Grasse, devenue aujourd'hui la Mecque des parfumeurs, l'air sent divinement bon là-bas. Mais il faut dire qu'en 1732, quand Jean-Honoré est venu au monde, l'air empestait et empestait affreusement. Car avant d'être la cité des parfumeurs, Grasse aura été celle des tanneurs et de la tannerie. Et la tannerie, on peut dire que ça ne sent pas bon du tout. Vous connaissez Elisabeth de Feydeau, notre spécialiste incontestée des douces fragrances. Fragrance, voilà un mot qui commence comme fragonard. Elle est professeure à l'école des parfumeurs de Versailles notamment et forcément, elle connaît Grasse comme sa poche. Bonjour Elisabeth, merci. Bonjour, de nous avoir rejoints. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, Grasse fait un peu figure d'épicentre de tout l'univers, de tout ce cosmos de la parfumerie.
Oui, grâce est toujours, en tous les cas, la référence du parfum, même si grâce n'a plus l'activité économique qu'elle a connue, notamment à l'époque de Fragonard, où justement au XVIIIe, grâce va devenir la cité du parfum absolument incontestée, et va prendre même la préférence à Montpellier, puisque c'était Montpellier au départ, qui était la ville des parfums.
Évidemment, à Montpellier, une ancienne faculté de médecine et de pharmacie, qui dit pharmacien, dit onguent, etc., potion, donc parfum. Comment Grasse est-elle devenue, elle qui était la cité des tanneurs, des peaux et des cuirs, comment est-elle devenue la cité des parfums? C'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant.
Et Franck nous parle aujourd'hui sur Europe 1 d'un grand artiste. Nous partons en Provence sur les traces d'un peintre sensuel, plein de vie, amoureux de la lumière et inventeur d'un nouveau jaune, Fragonard. Et nous prenons nos repères en quelque sorte en compagnie de vos invités, Franck.
Et nous sommes donc en compagnie notamment d'Elisabeth de Feydeau pour parler de cette ville natale de Fragonard. C'est la ville de Fragonard, on verra plus d'un titre du reste, cette ville de Grasse. On est donc dans la Provence, un peu en hauteur, ce qui fait que les nuits sont plutôt fraîches.
Tout à fait, et puis surtout, justement, les hauteurs disent également les troupeaux et donc les tanneurs. Et puis, c'est d'ailleurs...
Beaucoup de sources, beaucoup d'eau à Grasse, d'où les tanneries.
Et donc finalement, tout ce qu'il faut pour établir des tanneries. Donc c'est pour ça qu'à l'origine, Grasse était une ville de tanneurs dès le Moyen-Âge.
Il ne faut pas oublier que les Italiens, étaient, notamment tous les Italiens du Nord, de la Savoie de l'époque, étaient de grands consommateurs de cuir. Et que, donc ce n'était pas un hasard non plus s'il y avait autant de tanneries dans cette région. Et dès qu'on avait une ville qui était pleine de sources et d'eau, évidemment, on en faisait une ville de cuir. Hein. C'est
Absolument.
Le cas de Grasse.
Et d'ailleurs, c'est des tanneurs en fait, que le métier de parfumeur s'est développé, puisque quand on tannait les peaux à cette époque-là, on utilisait, et c'est ça qui sentait extrêmement mauvais dans les quartiers de tanneurs, des crottes de chien, de l'urine de cheval, des excréments humains également, qui avaient des propriétés donc pour tanner les peaux. Et du coup, il fallait les laver, mais il fallait aussi les désodoriser. Et donc, les tanneurs procédaient, selon la méthode orientale, à des bains de senteurs qui avaient pour but de créer une sorte de choc des titans, si vous voulez, entre ces odeurs toutes très fortes. Donc, on substituait évidemment à l'odeur pestilentielle des bonnes odeurs. Donc, à partir d'eau de rose, d'épices.
On essayait de recouvrir, en quelque sorte.
Voilà, on les recouvrait exactement. Et ensuite, on les faisait sécher à l'air. Et ce n'est que à l'époque de Catherine de Médicis, donc toujours encore l'influence italienne, que les parfumeurs, les tanneurs vont véritablement créer des parfums pour enfleurer les peaux selon le goût des personnes, donc des grands personnages, évidemment des dignitaires qui commandaient.
Donc on a des cuirs parfumés en fait.
Absolument.
Comment est-ce qu'on parfumait ces cuirs?
Alors, si on prend les bains de senteurs déjà dans un premier temps, on était donc avec des eaux de rose, beaucoup d'épices, de la cannelle, des choses très très fortes, des clous de girofle aussi qui également étaient antiseptiques. Et puis ensuite, on parfumait selon la mode. Alors, il y avait le gant à la provençale, il y avait aussi le gant à la frangipane. La frangipane qui était une recette qui avait été mise au point par une famille d'Italiens, les frangipani. Et c'était, moi je dis toujours un peu pour simplifier les choses, c'est une sorte de quatre quarts de la parfumerie. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait ce que l'on voulait comme senteur, mais il fallait qu'il y ait donc quatre matières différentes avec des proportions identiques. Et la plupart du temps, c'était quand même à partir du jasmin et de la rose.
Alors, on reviendra tout à l'heure au XVIIIe siècle, au Gantier, à Fragonard, bien entendu, c'est le sujet de notre émission. Mais il y a un autre Fragonard, c'est le parfumeur, évidemment. Quand on se promène aujourd'hui à Grasse, on voit la maison Fragonard. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec le peintre?
Alors, il y a un rapport indirect, c'est-à-dire qu'en fait, le fondateur de cette maison, la maison Fragonard, qui s'appelait Eugène Fuchs, va fonder la parfumerie Fragonard en 1926, en s'installant dans les locaux d'une ancienne parfumerie qui avait été créée au XVIIIe siècle, et en reprenant un nom bien connu et grassois, donc le nom Fragonard, d'ailleurs le père du peintre...
Si je puis dire, c'est un coup de pub, en quelque sorte.
Oui, absolument. Et je crois que le père du peintre était parfumeur, d'ailleurs. On retrouve en tout cas le nom Fragonard dans ce qu'on appelait les maîtrises de parfumeurs. Donc il était, en tous les cas, il y avait des membres de sa famille qui étaient maîtres parfumeurs, comme c'était le cas à Grasse de toute façon, ou qui n'étaient pas parfumeurs en étant né à Grasse. Donc il va fonder cette société en 1926. en profitant de toutes ces touristes, notamment cette clientèle américaine, qui viennent profiter de la Riviera et à qui il va vendre des produits traditionnels de Grasse, parce que Grasse avait aussi une autre particularité, c'était le cadeau. Il y a une grande tradition du cadeau dans le sud de la France et particulièrement
on fait les présents.
À Grasse. Voilà, les présents. Et les présents étaient souvent parfumés ou des pâtes d'amande, etc.
Nous avons en ligne Agnès Costa, qui co-dirige justement cette maison Fragonard avec ses deux sœurs Françoise et Anne. Bonjour Agnès Costa.
Bonjour Franck.
Merci d'avoir pris notre appel. Alors, vous avez, il y a quelques années, célébré les 80 ans de la maison Fragonard. Votre père, votre grand-père ont joué un rôle dans cette affaire, évidemment.
Un très grand rôle, oui. C'était une entreprise montée par des hommes, mais qui se retrouve aujourd'hui dirigée par des femmes. Mon père a développé l'entreprise et a surtout collectionné beaucoup de choses, a ouvert un musée du parfum et un musée lié au peintre Fragonard, puisque ça, le XVIIIe siècle a été la passion de toute sa vie. Il était né dans l'entreprise, puisque c'était celle de sa famille, mais il a eu une passion pour le XVIIIe siècle et pour le peintre, pour ce peintre-là en particulier, qui était une façon pour lui de lier les deux, je pense, lier son métier et sa passion historique.
Il y a d'ailleurs deux musées de votre maison à Paris également que l'on peut visiter, il faut le dire.
Oui, à l'Opéra, nous avons deux musées qui retracent 2000 ans de l'histoire du parfum, depuis l'époque antique jusqu'à la fin du 19e siècle. Ce sont des musées, comme toujours chez Fragonard, dont la visite est gratuite.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et vraiment ne prenez pas mal ce que je vais dire, parce que c'est très positif dans ma bouche, c'est que vous êtes en quelque sorte la quintessence d'une certaine frivolité, d'une certaine légèreté française. Il y a l'image du peintre Fragonard, il y a l'image de la Provence fleurie. Enfin, bref, c'est vraiment une sur-France que vous nous jouez.
Je le prends comme un très joli compliment et ça me fait très plaisir. Oui, nous aimons cette idée de Fragonard, le peintre du bonheur, et que nous soyons aussi le parfumeur du bonheur. Toutes ces choses que le monde entier rêve de partager avec nous, nous avons la chance de pouvoir le mettre en bouteille et de le proposer aux gens. Donc oui, c'est tout à fait une définition qui me plaît beaucoup.
Merci. Merci Agnès Costa. Je rappelle que vous co-dirigez Fragonard Parfumeur. Alors, est-ce que Fragonard était le peintre du bonheur? Et plus exactement, est-ce qu'en étant le peintre du bonheur, il était lui-même heureux? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Je vous propose d'entendre un extrait de ce film tiré du roman célèbre de Patrick Susskind, Le Parfum. On est exactement dans l'ambiance.
Comme en musique, l'accord d'un parfum doit contenir quatre essences ou notes soigneusement sélectionnées pour leurs affinités harmoniques. Chaque parfum contient trois accords, la tête, le cœur et la base. L'accord de tête contient la première impression qui ne dure que quelques minutes avant de passer le relais à l'accord de cœur, le thème du parfum. Il dure quelques heures. Et pour finir, l'accord de base, le sillage du parfum qui dure plusieurs jours.
Et nous profitons sur Europe 1 du soleil de Provence. Nous sommes précisément à Grasse, dans la cité des parfums, avec vous Franck et vos invités.
Vous entendez un peu les cigales et vous sentez cette odeur de rose d'arrière-saison particulièrement forte, capiteuse. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Defedeau, notre spécialiste des parfums, et de Claudine Lebrun-Jouve, qui est historienne de l'art, pour parler de Grasse et des Grassois et de Fragonard en l'occurrence. Le père de Fragonard était Gantier en fait.
Oui, Gantier, ils étaient parfumeurs.
Et donc,
dans ces cas-là,
parfumeurs,
absolument.
Ouais, ouais. On mêlait les deux savoir-faire. J'ai l'impression que les Grassois, si je puis dire, la famille paternelle de Fragonard, n'étaient pas vraiment les amis ni les alliés du peintre. Il a passé pas mal de temps à Grasse, il y est constamment revenu, mais il en est parti très tôt.
Il en est parti très tôt, en effet, à 6 ans. Et on peut dire qu'il n'est retourné qu'une fois pour un séjour long, c'est-à-dire à la Révolution, bien sûr, lui, qui n'aimait pas les tracas, qui n'aimait pas les soucis, qui n'aimait que le sourire, a fui Paris au moment de la Révolution. Et quand même, le clan Fragonard, semble-t-il, les Maubert, etc.,
oui,
a passablement soutenu. Il y avait quand même une entente familiale. Quand ses parents, justement, étaient montés à Paris, ruinés, sa mère a beaucoup travaillé, et son père a tenté, malgré son goût pour le jeu, de rétablir un petit peu la fortune familiale, mais je ne crois pas que ça ait pris beaucoup de succès.
Donc on peut dire, si je vous comprends bien, Claudine Lebrun-Jouve, on peut dire que la personne forte dans la famille, c'est la mère de Fragonard. C'est elle qui tient à bout de bras sa petite famille et c'est
absolument
elle qui va aider son fils, en
oui,
fait.
Oui, oui, peut-être c'est ce qui lui a donné le goût des femmes d'ailleurs. Cette femme devait avoir un fort caractère.
Alors Fragonard va manifester un don très précoce, pour le dessin d'abord et pour la peinture.
Bien sûr. On essaye de le faire travailler comme les gens travaillaient, les gens simples travaillaient très jeunes. Donc on le met chez un notaire, Petit Saute-Ruisseau. Il n'a rien à faire de ça. Par contre, quand il va travailler, il passe par toutes les églises de Paris et dessine comme un fou. Bon, je suppose, on n'a pas ces petits croquis d'ailleurs d'enfance. Donc finalement, on se dit, il faut peut-être le caser chez un peintre en apprenti.
Et voilà.
Donc on l'envoie à Boucher, qui était très connu, mais Boucher le trouve un peu insuffisant. Le petit Fragonard, il n'est pas au point. Et Fragonard donc passe chez Boucher, qui n'en veut pas, qui dit, allez faire des progrès chez Chardin. Pour nous, c'est fabuleux, parce que Chardin, c'est...
Entre... Chardin est devenu un de nos grands maîtres, mais à l'époque, il n'est pas considéré comme tel.
Pas vraiment, parce qu'il était dans la hiérarchie des genres, tout en bas. La nature morte, c'était très peu de choses. Et pourtant, pour nous, Watteau, Boucher, Fragonard et Chardin...
Ben oui, ce sont les quatre phares du XVIIIe siècle.
Absolument, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc il passe chez Chardin, qui lui non plus n'était pas très, très académique, hein, dans son enseignement. Il lui dit, grossièrement, je résume, il y a une très belle phrase rapportée par le petit-fils de Fragonard, mais il lui dit, il faut tripatouiller, gratouiller, frottouiller, etc. Et puis quand c'est bien, vous arrêtez. C'est à peu près ce que Chardin lui a dit. Et là, cependant, Chardin peignait très bien, et il a bien sûr enseigné à Fragonard les prémices, toutes les délicatesses de son métier, la nuance des couleurs, la douceur des couleurs, et la petite touche de bleu fondu qu'on mettait en surface pour faire vibrer la lumière sur l'objet.
La véritable école de Fragonard, ça a été l'Italie. Dans un siècle où on ne conçoit pas l'éducation artistique sans ce qu'on appelle un grand tour au pays de Raphaël et des Carrache, le jeune homme, il avait 23 ans au moment de son départ, a bénéficié d'un parcours d'initiation à la hauteur de son talent. Il était titulaire du Grand Prix de peinture, hein, ce qu'on appelle nous le Grand Prix de Rome. Il a donc pu séjourner à l'Académie de France à Rome. À l'époque, ça ne siégeait pas encore à la Villa Médicis, mais au palais Mancini. Fragonard va pouvoir se nourrir de tous les trésors de Rome avant d'excursionner en bonne compagnie, on va en parler, à Tivoli, à Naples, puis à Florence, Bologne, Venise et Gênes. 5 ans avant lui, le frère de Madame de Pompadour, le futur marquis de Marigny, qui exerçait une charge équivalente à l'actuelle fonction de ministre de la Culture, Marigny donc avait fait le grand tour et c'est sous son égide que Fragonard et 4 autres grands prix sont donc envoyés à Rome, à la toute fin de l'année 1756. C'est ce que je vais vous raconter maintenant.
Effectivement, voici le récit de Franck, consacré cet après-midi sur Europe 1, au grand tour, à ce voyage initiatique de Fragonard.
La mère de Fragonard n'est déjà plus présente. Sa faiblesse l'a contrainte à un étrange sommeil près de 20 heures par jour. Elle ne s'éveille que lorsque son petit pénètre dans la chambre sur la pointe des pieds. Alors elle lui sourit. Il pose sa joue dans sa main qu'elle n'a plus la force de soulever de son drap. Elle se meurt en souriant. Tous les jours, jusqu'au jour où c'est la fin de l'après-midi. Le printemps exulte au dehors et se change en été. Il n'ose pas ôter sa main. Elle est morte, la tête appuyée contre son épaule. Le jour de l'enterrement, Frago, comme l'appelle notre auteur Sophie Chauveau, s'est senti seul au monde, mais devant son père pour une fois présent et devant tout le clan des Grassois que sa mère fuyait plus ou moins, le jeune homme n'a pas osé s'abandonner vraiment aux larmes. Il a gardé tout cela pour lui, tout son chagrin, tout son désespoir vague, en même temps que sa dette énorme envers cette mère qui l'avait éveillée, soutenue, poussée. Elle est morte si fière du grand prix de peinture que son petit avait décroché. Fragonard, ou Frago, si vous permettez que je reprenne à mon compte l'affectueux diminutif, arrive à Rome avec ses condisciples le 22 décembre 1756. Cette date du 22 décembre a joué un rôle particulier dans sa vie. À cette époque, l'Académie de France, je vous le disais, se trouve donc au palais Mancini. Elle est sous l'autorité du peintre Natoire, un artiste de cour à l'ancienne, non sans talent, certes, mais bien ennuyeux, bien académique. Il a 57 ans, Natoire, mais il en paraît davantage. Il est tout aigri, tout jaloux, sec, raide, épris de discipline et plein d'autorité, peut-être d'autant plus épris de discipline que cette discipline ne lui est pas naturelle et qu'il est obligé de forcer sa nature pour avoir l'autorité nécessaire sur tous ces jeunes gens qu'on lui envoie. Parmi toutes les belles qualités de Natoire, il y a la pingrerie, il faut le dire. cet homme-là et son personnel économisent surtout sur les draps, sur tout, même sur la nourriture. Ce qui fait que les pensionnaires de l'Académie de France sont relativement mal nourris. L'ambiance au palais Mancini est effrayante. Et pour échapper à cette ambiance morose, Fragonard se promène, il visite tout. On est à Rome, après tout. Hein. C'est la ville des visites par excellence. Alors, il découvre l'antique avec toutes les ruines, bien entendu, mais aussi le baroque. Et Dieu sait que Rome est fournie en ce domaine. On peut dire que Fragonard est aussi ébloui par les collections princières que parce qu'il peut y avoir d'esthétique dans les quartiers les plus populaires. Il visite le sacré comme le profane. Bref, je vous dis qu'il visite tout, avec une forme de boulimie qui ne peut que s'achever en essoufflement et qui l'assomme. Ça me fait penser, pardon pour cette comparaison, mais vous savez, quand un auteur, et je sais de quoi je parle, arrive au Salon du Livre et qu'il voit des montagnes de livres absolument partout, d'un seul coup, il se sent complètement découragé, les bras lui tombent et il se dit qu'il n'a plus, il n'y a aucune raison d'écrire. Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé à Fragonard en voyant tous ces morceaux de peinture qui, partout, illuminent les murs de la moindre maison, de la moindre des églises romaines. Il est abattu, il est effondré et soudain, il se découvre stérile. Ça, bien sûr, ça ne peut qu'inquiéter Natoire. Vous savez que Natoire, en tant que président de l'Académie, doit rendre des comptes à ses supérieurs à Versailles. Monsieur de Marigny et puis le graveur Cochin qui lui sert de conseiller dans tout le domaine des arts graphiques et picturaux, ces grands personnages de la cour attendent évidemment des résultats des élèves qu'on envoie à Rome. Et Natoire se dit que on risque de lui imputer les défauts de Fragonard. Alors du coup, on peut dire que Natoire va se montrer encore plus dur envers Fragonard qu'il ne l'est envers les autres élèves. Et Fragonard, lui, tombe dans un moment qu'on pourrait qualifier de dépressif. Tous les chagrins ravalés de la mort de sa mère à ce moment-là ressurgissent et il se laisse submerger d'amertume et de regrets. Son arrivée à Rome est une catastrophe intime, écrit Sophie Chauveau. La mort rôde, la peur le mine, l'ennui le glace. Et ce n'est pas Natoire qui l'aide à surmonter cette crise. Outre qu'il fait régner une discipline dévote et stupide, aux yeux de l'orphelin qui n'a toujours pas compris pourquoi le bon Dieu lui avait pris sa mère, son seul amour, plutôt que son père qu'il ne voit jamais, ce Natoire est décidément en fin de course. S'il n'a pas été un bon peintre, et Frago ne s'autorise pas encore à en juger, il est visible qu'il n'a plus grand-chose à dire en couleur aujourd'hui. D'ailleurs, on ne le voit jamais peindre, seulement donner des ordres. Il est aigri, amer et envieux de ceux qu'il est chargé de former, raide, brimant, cassant, sans la moindre ouverture sur le monde. Ajouté au poids de Michel-Ange, au génie de Raphaël, Jean Honoré se sent basculé dans une mélancolie sans fond et ce ne sont pas les objurgations de Natoire qui vont arranger les choses. Vous savez, Fragonard, par nature, est indiscipliné. Alors, eh bien, il va adopter une attitude qui est évidente dans une situation comme la sienne. Il se met à ne plus rien faire, et d'autant moins qu'on l'oblige à copier. Vous savez, il s'agit de copier les maîtres du passé, copier sans invention, copier ces toiles qui sont déjà des chefs-d'œuvre et dont la copie n'apportera finalement jamais rien à personne. Jamais de création sur un modèle original, interdiction de prendre sur le vif le croquis d'un paysage. Ce que ressent Fragonard dans cette affaire, c'est qu'il n'y a plus de liberté. Or, sans liberté, il n'y a plus d'invention, et sans invention, il n'y a plus de vie. En lui, le ressort se casse, il découvre que ce qu'il aimait à travers la peinture, c'était l'invention, et que ce qu'il recherchait, c'était la liberté. Il se trouve maintenant dans cette Rome, certes vouée à tous les arts, mais qui pour lui est ce qu'on pourrait appeler une prison dorée. Alors il va passer de très longues heures dans une église à observer une toile de Caravage. Il sent bien qu'il a perdu le goût de peindre, qu'il a perdu l'appétit. Il a même plus envie de s'amuser, lui qui était la joie de vivre incarnée. Son camarade Pajou essaie de le secouer. Il l'emmène avec lui dans un bordel du quartier populaire du Trastevere. Eh bien non, même cela, Fragonard n'en a plus envie. Thank you.
sur Europe 1 du concerto numéro 23 de Mozart. À tout de suite pour la suite du récit consacré aujourd'hui à Fragonard. Le récit de Franck consacré aujourd'hui, vous l'avez compris, à Fragonard.
Fragonard est dégoûté. Il ne fait plus rien. Rome l'a littéralement cloué. Au moins, il a du temps pour réfléchir et il comprend qu'il n'a pas osé vivre la douleur de la mort de sa mère. Il n'a pas vraiment fait son deuil. C'est maintenant, avec retard, qu'il le fait. Il comprend aussi et surtout qu'il n'est pas de taille à se mesurer à des géants comme Michel-Ange, Raphaël ou Léonard. Ces gens-là ont en quelque sorte glacé son pinceau. Sur ordre de Natoire, il a commencé à copier un Cortone dans la chapelle des Capucins. Seulement, il n'avance pas. Et en lui-même, disons-le, il a renoncé. Sauf que le président de l'Académie se lasse. Il avait jusqu'ici le fils de Chardin comme tête de Turc. Il se trouve qu'il a renvoyé le jeune Chardin. Et maintenant, son mouton noir s'appelle Fragonard. Je reprends le récit de Sophie Chauveau. « J'ai des comptes à rendre, moi, monsieur !» Vous avez bien compris que c'est Natoire qui parle. Je ne peux me permettre de nourrir un incapable ou un paresseux. Il n'est pas encore décidé si vous êtes l'un ou l'autre. Savez-vous que j'ai déjà dû écrire plusieurs fois au marquis de Marigny pour différer vos envois, expliquer, sinon justifier vos retards ? Mais enfin, si je pouvais, monsieur Taratata, si vous pouviez, monsieur, dites plutôt si vous vouliez. On ne vous a tout de même pas forcé, sous peine de mort, à pratiquer l'art de peindre. Vous avez bien dû le vouloir un jour, et même le pouvoir, à ce qu'on m'a dit. J'ai entendu vanter votre pièce de concours en des termes dont vous devriez rougir. Si j'en juge par vos médiocres croquis, vous en seriez aujourd'hui absolument incapable, à moins que vous n'en soyez pas l'auteur. Monsieur, je ne vous permets pas de douter de moi. Eh bien, prouvez-nous que vous êtes bien l'auteur de ce fameux Jéroboam qui fit l'admiration de toute l'Académie. Jusqu'à être démenti par votre travail, je vous tiens, moi, pour un imposteur. Je vous donne 3 mois pour me montrer ce dont vous êtes capable, pas un jour de plus. Au-delà, vous suivrez le chemin du malheureux fils Chardin, le déshonneur de son père. Et fier et roide comme le glaive de la justice, écrit Sophie Chauveau, Natoire le laisse là anéanti. Chassé à la porte, non. Alors, quoi, copier le Cortone ? Mais il n'y arrive pas, absolument pas. Une fois seul, Fragonard s'effondre. Quelque chose est cassé chez ce jeune homme. Sophie Chauveau nous dit qu'une digue se rompt. Il n'a ni la force ni l'énergie de retenir ses râles. Il se met à pleurer, à hurler, à rouler par terre. Et Natoire, chose qu'on n'aurait jamais cru possible, Natoire va être ému par la situation de ce jeune homme. On le voit qui s'approche. Je reprends le récit de Sophie Chauveau. Il s'accroupit devant lui tout près, pose sa main sur sa tête et la lui caresse, un vrai geste de grand-mère. Là, tout doux, ça va passé. Des mots de grand-mère. Quelque chose se débloque dans sa poitrine, cette soudaine douceur, ce geste maternel. Il ne pleure plus, il hurle. Et voilà soudain ce vieux peintre attendri et qui, de peur peut-être d'être tenu pour responsable, encore une fois, de ce qui s'est passé, de peur peut-être que M. de Marigny ne lui en veuille, et pourquoi pas le roi, voilà ce vieux peintre qui va déployer des trésors de douceur et d'ingéniosité pour ramener l'artiste dégoûté à la peinture. On le voit emmener Fragonard en promenade, il lui propose de peindre d'une manière différente, il lui suggère des cadrages nouveaux, il le dispense des travaux de copie, ça c'est très important pour le jeune homme. Il l'autorise à prendre des croquis sur le vif et précisément c'est ce qu'il fallait faire. Comme par enchantement, le goût de peindre va revenir à Fragonard. Il le laisse choisir les maîtres qu'il préfère étudier. Rubens, peut-être ? Non, finalement, le jeune homme décide de lui-même de se remettre à sa copie de Cortone. Et cette fois, il l'achève. Ce qu'il y a de beau et de touchant même, c'est que Natoire, sous ses dehors revêches, a compris la raison profonde de la crise que traversait son élève trop sensible. Il l'a comprise, il l'excuse, il va en tirer un enseignement. La vérité, c'est que Fragonard est visiblement trop sensible au génie pictural. Il comprend trop les grands maîtres et se laisse abattre, il se laisse décourager par leur génie. Alors, plutôt que d'épuiser le génie naissant de son Fragonard en l'obligeant à copier le génie passé d'un Titien ou d'un Raphaël, Natoire va lui proposer comme modèle de plus petits maîtres, assez faciles à égaler comme Tiepolo ou à dépasser comme François Solimène. Il n'en fallait pas plus à notre maître en herbe pour reprendre goût à son art, pour tenter à nouveau de dépasser les autres et de se surpasser lui-même. bien vu, monsieur Natoire. Vous n'étiez sûrement pas la brute qu'on a parfois voulu voir en vous. Je laisse la conclusion de cette affaire et de cette crise à Sophie Chauveau. Rien de tel que les décadents pour se consoler des génies. Nous avons bien compris que l'original est toujours préférable à la copie. L'original est avec nous dans ce studio. Nous retrouvons Sophie Chauveau dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité du jour, Sophie Chauveau, que vous avez déjà cité tout à l'heure, écrivain, auteur de Fragonard, l'invention du bonheur, aux éditions Télémac.
Merci Sophie Chauveau d'être avec nous, et alors surtout merci d'avoir écrit ce magnifique ouvrage, Fragonard, l'invention du bonheur, aux éditions Télémac. On partage, et ça c'est assez rare dans un roman historique, on partage l'une après l'autre, les différentes émotions qui ont constitué ce personnage. C'est un portrait tout en finesse que vous nous livrez de lui. Alors, cette crise romaine est assez drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va être suivie, au contraire, par une véritable explosion romaine. Il se met d'un seul coup à aimer cette ville, non seulement cette ville, mais toute la péninsule italique. Il se fait des amis, des amitiés extrêmement fortes, et il va découvrir d'autres amis, ceux du passé, les grands maîtres italiens, dont il fera enfin ses alliés.
Oui, la période romaine est très ambiguë puisqu'elle est à la fois désespérée et fabuleuse puisqu'elle est un tremplin pour toute sa vie, notamment grâce à ses amitiés qui sont Sanon et Hubert Robert.
Alors Hubert Robert n'est pas vraiment lui un élève de l'Académie de France, non, mais il est protégé par Choiseul, hein, donc ça revient au même.
Et il y loge.
Et il y loge. Il va devenir une sorte d'alter ego pour Fragonard, un personnage...
Je crois qu'ils ne se quittent pas de leur vie, oui, effectivement, et qu'il y a, en tout cas moi, romancière, ce que j'ai aimé chez Fragonard, c'est son amicalité, cette fraternité formidable qu'il a avec les autres artistes et son absence de narcissisme et d'ego qui fait qu'il peut partager profondément dans une vraie amitié. Et donc j'ai essayé de les faire vivre jusqu'à leur mort, cette tendresse particulière et de confraternité aussi, parce que c'est deux artistes qui vont peindre souvent côte à côte, donc on a en plus les œuvres, c'est amusant.
Alors, il a été parisien avant tout. Nous avons vu qu'il est originaire de Grasse, qu'il y retourne à plusieurs reprises, notamment donc en 88, juste quand ça commence à sentir le roussi, si l'on peut dire.
89. Oui. En fait, on le met à l'abri à cause des toiles de la Dubarry. Mais c'est une période où sa femme et sa belle-sœur et tout le monde veut rester à Paris, parce que c'est très excitant, la Révolution en 89. C'est encore un moment merveilleux.
Il y croit beaucoup, lui, d'ailleurs, au départ.
Et c'est le tiers-état, quand même.
Ah oui, c'est ça.
C'est pas des... Il s'est enrichi parfois, il a dépensé souvent, mais il vient de milieux très pauvres et d'une faillite initiale, donc d'un manque profond.
Il a connu, oui, ce que c'était que la chute, que le déclassement, en quelque sorte.
Petit déclassement, mais déclassement quand même.
Ce que je voulais vous dire à propos de Grasse, c'est qu'on a l'impression que cette lumière, cette vitalité de la Provence, néanmoins, a constamment survécu en lui et qu'il l'a exprimée, lui, le Parisien.
Pour moi, c'est à cause de Grasse qu'il invente ce jaune merveilleux. Ouais. En même temps, ce qu'on sait par tout ce qu'on sait sur lui, c'est que ses peintres favoris vers la fin de sa vie, la grande période picturale de sa vie, sont les Hollandais. C'est Rembrandt. C'est donc une lumière beaucoup plus nordique, c'est beaucoup plus tamisé. Et lui vient, sans doute il a mangé du soleil, il a mangé une grande lumière du sud, et après il va la restituer et en aimant autre chose.
C'est-à-dire qu'en fait son influence essentielle, c'est une influence foncière fondamentale, c'est le goût de la lumière et des lumières.
Mais du mouvement.
Et du mouvement
qui va avec.
Et ce mouvement, cette lumière, ne sont pas évidemment ceux de l'Europe du Nord, mais ceux de la Provence.
Et donc de l'Italie,
ça c'est assez extraordinaire.
Donc, il est chez lui en Italie. Sur le plan de la rétine, il est chez lui. C'est le même paysage. Quand il va y retourner en Italie longtemps après, il va retrouver Grasse, même si on ne l'emmène pas jusqu'à Grasse parce qu'on le punit. Il va retrouver ça.
Nous aurons peut-être l'occasion, dans les temps qui viennent, de faire une émission sur le Louvre, une de plus, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y a dans l'histoire de ce palais, devenu musée, une longue période qu'on a tendance à oublier, c'est celle où le Louvre accueille non seulement les académies, mais aussi un certain nombre d'ateliers de peintres. C'est une sorte de cité des arts, Sophie Chauveau.
Alors moi, ça m'a beaucoup surprise, parce que je l'ai découvert un jour, forcément. Et alors, les dates, c'est très étonnant, parce que c'est très long quand même, c'est 1608-1806. Donc c'est bien deux siècles pendant lesquels, depuis qu'Henri IV a donné des ateliers à des artistes, 8 sculpteurs, 8 peintres et quelques artisans orfèvres parce que sa femme aimait les colifichets, il n'y a pas eu d'époque entre ces deux dates-là où le Louvre ne soit constamment habité, parce que ce n'est pas des ateliers pour travailler, c'est pour vivre. En tout cas, ils y habitent, ils y vivent, ils s'y installent, et ils s'y installent avec une nombreuse marmaille. Souvent, ils gardent leurs élèves à dormir, ils ont des animaux, puis il faut des chats parce qu'il y a des rats. Et puis, il y a tout ce monde qui s'y installe, tout ce monde de parasites et de malandrins qui va essayer de squatter les escaliers, les couloirs, les... Donc le monde, c'est grouillant, c'est horriblement sale, ça pue aussi comme grâce. C'est assez étonnant parce que pendant deux siècles, on a une espèce d'immense communauté d'artistes qui vont de force fraterniser, mais aussi échanger. Par période, c'est pas les meilleurs, par période, et à l'époque de Fragonard, c'est les plus grands qui sont là. Et on veut être au Louvre alors que c'est assez insalubre, assez incommode à vivre. Des gens comme Hubert Robert, un peu plus chic, vont avoir un atelier et habiter ailleurs quand même, parce que sa femme ne trouve pas ça très agréable. Mais c'est un endroit de... C'est une cité des arts extraordinaire. Enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller.
Et vous le faites vivre.
Bah, j'avais envie d'y aller.
Ah oui, c'est ça, on y est avec vous.
Bah, oui.
Et on sent que Fragonard a aimé cela. C'est-à-dire que vous parlez de la crasse, du désordre, etc. Mais en même temps, tout ça est tellement esthétique. Et peut-être que c'est lui ou son regard qui rend tout ça plus beau.
Alors, on sait que Fragonard est le premier, enfin, le premier de son époque, c'est-à-dire du 18e, qui va faire tellement de tableaux, qui va déborder sur la galerie, qui va mettre des portraits de ses amis dans la galerie. La galerie, c'est le corridor où tout le monde se voit, se parle, s'engueule, échange... Des conseils picturaux, mais aussi des recettes de cuisine. Enfin, je veux dire, il y a la vie quotidienne très forte. Elle est très forte, la vie quotidienne au Louvre, bizarrement, parce que maintenant c'est un musée, donc on ne se rend pas compte à quel point ça sentait le graillon.
C'est sous Bonaparte que ça devient un musée. On connaît évidemment le rôle de Vivant Denon dans cette affaire. Déjà, le Louvre devait devenir un musée à la fin de l'Ancien Régime. Hein,
on y expose régulièrement.
Oui,
il y a des jours d'ouverture.
Il y a le salon, déjà. Oui.
Qui est la Saint-Louis, je crois que c'est le 25 août.
Le 25 août,
comme ça.
Oui.
Où on exposait à ce moment-là les tableaux. Les académies sont venues après les artistes. C'est aussi assez amusant parce qu'elles ont été créées pour lutter contre les confréries qui enfermaient les artistes dans trop de spécialisations. Et tout d'un coup, on crée des académies pour leur ouvrir le monde et David va vouloir qu'une chose, c'est fermer les académies. Donc en fait, la boucle est bouclée au Louvre. C'est très amusant de ce point de vue-là aussi.
Et pour Fragonard, ça n'est pas la fin de son histoire au Louvre. C'est ça qui est très étonnant.
Il continue d'y habiter. Tant qu'il y habite, à un moment donné, il ne peint plus et les dernières années de sa vie ne sont pas très créative, donc et puis il y a la révolution, et puis il y a le danger permanent. Ils ont quand même la guillotine sous les fenêtres, hein. C'est pas très glorieux non plus à vivre. Et David, heureusement, d'abord, sait prendre Fragonard pour des raisons picturales et amicales qui sont assez étonnantes, enfin, à fouiller, qui m'ont, moi, beaucoup bouleversée parce que je ne m'y attendais pas. En fait, humainement, il a une mauvaise réputation, David. Donc je l'ai trouvé plutôt gentil avec mon artiste à moi. Et puis, il va le nommer avec d'autres, hein. Ils sont plusieurs. Il va le faire nommer par toutes les assemblées constituantes de la Révolution, régulièrement, au tri des œuvres séquestrées des immigrés et de l'Église, pour faire le choix de ce qui va être les collections définitives du Louvre.
Le temps passe, Sophie Chauveau. Je vous propose un exercice pictural, si vous voulez. Ouais. J'aimerais qu'on fasse, parce qu'on n'a pas fait du tout, pendant toute cette émission, un portrait, comme vous le faites vous si bien, de Fragonard. Alors d'abord, portrait physique, à quoi ressemble-t-il?
Ah bah ça a été pour moi...
Le rouquin, si je puis dire.
Oui, non mais c'est surtout... Moi je suis une grande fille, et j'ai découvert un homme d'une petite taille, ce qui était une vraie curiosité. Comment on sait, quand on grandit, qu'on ne grandira plus? Qu'on va rester de petite taille, et qu'on est... Et vraiment, il n'est pas grand. Et vraiment, c'est aussi un de ses agréments et un de ses charmes, et il va s'en servir beaucoup pour rester un petit jeune homme très longtemps. Même Boucher va penser qu'il est beaucoup plus jeune qu'il n'est. Enfin, c'est un personnage qui ne se trouve pas beau, qui ne s'aime pas, qui a fait pas d'autoportrait. Il y a deux, trois croquis assez sans intérêt. On n'a pas envie de le reproduire en image, contrairement à sa belle-sœur qui est magnifique. Et moi, j'aime bien sa femme. Et puis sa fille Rosalie qui est touchante. Donc il a fait sa famille. Hein. Il était quand même...
Mais pas lui, effectivement.
Peu. Il a fait que des crayons, enfin il sait pas.
Et le portrait moral en quelques adjectifs, ça c'est la tâche réductrice, c'est difficile.
Oui, parce que je préfère l'écrire que le raconter.
Vous le faites si bien.
Merci, mais je pense que c'était un homme d'une grande gentillesse. Je pense que c'est un type qui a passé sa vie à chercher le bonheur parce que profondément il a un grand chagrin au fond de lui. Ça c'est mon sentiment après avoir vécu un peu avec lui, donc je...
Et c'est le sentiment que vous nous faites partager dans Fragonard, l'invention du bonheur, aux éditions Télémaque, un ouvrage très bien édité, comme toujours, chez Télémaque. Merci beaucoup, Sophie Chauveau. Merci, Claudine Lebrun-Jouve, de nous avoir livré quelques clés de l'existence de Fragonard. Et merci, Elisabeth de Feydeau. On vous retrouvera pour d'autres émissions sur le parfum, plus spécifiquement.
Avec plaisir. Alors,
je rappelle, bien entendu, votre Bible aux éditions Robert Laffont, Les Parfums, Histoire, Anthologie et Dictionnaire. Et puis, très bientôt, vous allez faire paraître, avec l'ami Alain Baraton, un herbier de Marie-Antoinette. Ce sera le 3 octobre prochain.
Tout à fait.
On vous recevra pour en parler.
Oh bah avec grand plaisir.
À bientôt.